Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Laetitia De Witt.
Madame, Monsieur, bonjour. Dans la série d'éphémérides consacrée à la guerre espagnole de Napoléon, Thierry Lenz, directeur de la Fondation Napoléon et auteur de plusieurs ouvrages sur le consulat et l'Empire, revient sur l'insurrection madrilène du 2 mai 1808. Alors rappelons juste que de 1808 à 1813, la guerre d'Espagne constitue une véritable épine dans le pied de Napoléon. Il s'avère incapable à vaincre une résistance espagnole qui pourtant, dès le départ, s'était montrée déterminée à sauvegarder sa liberté, comme en témoigne le 2 mai. Alors avant de détailler cette journée, pouvez-vous nous rappeler, Thierry, dans quelles conditions Napoléon s'était-il lancé dans cette guerre d'Espagne ?
Disons que on pourra dire d'abord qu'en matière de politique étrangère, Napoléon est un opportuniste, un pragmatique, disons, pour ne pas l'accuser d'opportunisme, et que les désordres dynastiques en Espagne lui ont donné l'idée d'arbitrer un petit peu ces désordres dynastiques, et qu'il a donc essayé de profiter de la rivalité entre Charles IV et son fils, le prince des Asturies, donc appelé Ferdinand VII, pour imposer un troisième choix, un troisième homme qui était son frère Joseph à ce moment-là.
Oui, et il saisit en fait le prétexte d'envahir le Portugal parce que il voulait conquérir la péninsule, et pour qui veut conquérir la péninsule, c'est le Portugal qui était vital.
Oui, le Portugal est un allié traditionnel de l'Angleterre. Hein. Il y a un traité qui liait le Portugal et l'Angleterre depuis plusieurs siècles. Et le Portugal était en quelque sorte la tête de pont des intérêts anglais en Europe. Alors Napoléon les a menacés à plusieurs reprises. Il y a déjà eu une guerre hispano-portugaise au début du consulat. Et là, Napoléon a saisi l'occasion de la mise en œuvre du blocus continental, d'une période de paix relative en Europe, pour se lancer à la conquête du Portugal. Donc en novembre 1807, une armée française se rend au Portugal et, en quelque sorte, pour la soutenir, l'Espagne accepte qu'une deuxième armée s'installe dans le nord du pays et bientôt à Madrid, puisque au bout de quelques mois d'opération, Napoléon nomme à Madrid un de ses meilleurs généraux, le maréchal Murat, qui doit, d'après sa lettre de mission, soutenir les opérations du général Junot au Portugal. Mais on verra qu'il ira beaucoup plus loin.
Les affaires intérieures de l'Espagne précipitent un peu les choses. Et finalement, Napoléon va être prêt à intervenir. Et c'est très vite la révolte de... Enfin non, il faut peut-être revenir sur l'épisode de Godoy.
Alors, si vous voulez, l'Espagne, d'abord, pour reprendre un petit peu cette histoire depuis le début, l'Espagne a été l'allié principal de la France entre 1795 et 1807. Pour des tas de raisons. D'abord parce que la marine espagnole était très puissante, parce que l'Espagne était réputée être un pays riche en raison de ses colonies d'Amérique du Sud, et puis parce que sur le plan politique, l'Espagne n'avait pas beaucoup d'autres choix. Hein. Elle n'a qu'un seul voisin, au fond, c'est ce grand voisin du Nord qu'est la France. Alors, cette alliance a fonctionné grosso modo jusqu'à la bataille de Trafalgar, et à partir de la bataille de Trafalgar, puisqu'il n'y avait plus de flotte espagnole, pas plus d'ailleurs que de flotte française, cette alliance espagnole était devenue, pratiquement inutile. Et puis on s'était bien rendu compte que les fameuses piastres que l'Espagne promettait de ses colonies d'Amérique du Sud n'arriveraient jamais. Alors là-dessus se greffe l'action du principal ministre espagnol, qui s'appelle Manuel Godoy. Ce Premier ministre est considéré par l'historiographie française comme un félon, comme un traître, comme, je dirais, un manœuvrier, mais il suffirait de se mettre un tout petit peu à sa place. Il est quand même Premier ministre de l'Espagne, et donc son rôle, c'est de défendre les intérêts de son pays. Or, il se rend compte que la mainmise de la France sur l'Espagne est de plus en plus difficile à accepter, qu'elle est de moins en moins acceptée d'abord par les élites, mais aussi un petit peu par la population qui commence tout doucement à se considérer comme une nation particulière. Alors, ce Godoy mène publiquement une politique très favorable à la France, et bien sûr, en sous-main, il mène une politique qui est un essai de rapprochement avec la Prusse, avec la Russie, avec des lettres très imprudentes au roi de Prusse que Napoléon va découvrir à Berlin en 1806, ce qui fait que les relations entre les deux hommes vont se gâter. Ça, c'est la relation franco-espagnole. Et puis, il y a la relation interne à l'Espagne, où le roi Charles IV un bon roi. Enfin, si vous voulez, on pourrait dire que c'est le Louis XVI espagnol. Hein. C'est ouais. plutôt un homme qui est bon. D'ailleurs, physiquement, les deux hommes se ressemblent. C'est un homme qui est bon, qui est attentif, mais qui n'est pas un grand homme d'État pris de décision. Donc, il se laisse complètement manœuvrer par Godoy. On ajoutera pour la petite histoire que Godoy est l'amant de la reine, donc de la femme de Charles IV, Marie-Louise, et qu'à un certain moment, même Godoy se permet de dominer tant la famille royale qu'il, par exemple, devant l'ambassadeur de France, il frappe la reine à un moment donné, ce qui montre quand même l'ascendant qu'il avait pris. Alors, ça commence à se savoir, il y a toute une fraction autour du roi d'Espagne qui se dit, il faut changer de roi en quelque sorte, et on se tourne vers l'héritier du trône, Ferdinand, le prince des Asturies, et une coterie se monte autour de Ferdinand, qui aboutit une sorte de coup d'État à Aranjuez, à la fin de l'année 1807, coup d'État au cours duquel Godoy est fait prisonnier par la foule, il est battu comme plâtre et jeté en prison, et Ferdinand obtient l'abdication de Charles IV. Il devient donc roi d'Espagne sous le nom de Ferdinand VII. Et c'est à ce moment-là que les choses vont un peu se gâter.
Voilà. Et c'est à ce moment-là que Napoléon va convier la famille royale à Bayonne, que Napoléon va décider d'intervenir directement dans les affaires de la couronne d'Espagne. On en va en reparler. Mais que se passe-t-il à ce moment-là à Madrid? Pourquoi ça déclenche une émeute à Madrid?
Alors, l'émeute de Madrid, est, d'abord, il faut dire que c'est un grand événement mythique de l'histoire nationale espagnole. Il est fort probable qu'à l'occasion du bicentenaire de cet événement, les Espagnols vont le célébrer avec une grande force, avec, comment dire, avec beaucoup de ferveur. D'abord parce que l'État espagnol en a besoin pour des raisons d'unité nationale. Vous savez que l'Espagne est un pays qui subit quand même beaucoup de forces centrifuges de la part de ses régions. Donc, le gouvernement espagnol va sans doute essayer d'en profiter pour l'Union nationale. Et puis, en même temps, c'est un symbole, une mythologie de l'histoire espagnole, au même titre que la prise de la Bastille, par exemple pour nous, ou la proclamation de la République le 4 septembre 1870. Quand on examine les événements d'un peu plus près, on se rend compte que c'est un petit événement sporadique qui évidemment entraîne une réaction en chaîne qui ouvre sur le soulèvement général en Espagne.
Voilà, parce que donc le 2 mai... Une émeute populaire éclate à Madrid.
À un moment donné, donc, toute la famille royale, tous les princes se retrouvent à Bayonne et autorisent Napoléon à nommer Murat comme son lieutenant général en Espagne. Alors Murat, partant de cet accord des familles royales espagnoles, s'installe à Madrid avec à peu près entre 20 et 30 000 hommes. Et il s'installe à Madrid sans que Napoléon lui ait véritablement donné ses intentions. Ça, si on peut aborder à un moment donné le débat sur la responsabilité de Murat dans le 2 mai, c'est un débat extrêmement intéressant. Enfin, donc Murat s'y installe et à un moment donné, Napoléon lui demande d'envoyer vers Bayonne l'ensemble de la famille royale espagnole. Donc, on prévoit le 2 mai le transfert de deux personnalités, Marie-Louise d'Étrurie, qui est donc une fille du roi d'Espagne et qui a été reine d'Étrurie, donc qui elle part sans aucun problème. Et puis il y a un petit enfant de 4-5 ans qui est l'infant Francisco, qu'on doit donc là aussi mettre dans un carrosse et envoyer vers Bayonne où l'ensemble de la famille espagnole est attendue par Napoléon. Alors, c'est là que les choses se gâtent. Si on peut tout à l'heure entrer dans les détails, on en donnera quelques-uns. Mais toujours est-il qu'une foule se masse devant le palais, qui est défendue à ce moment-là par des soldats espagnols, que cette foule devient un peu menaçante, qu'elle passe les sentinelles. Alors, les sentinelles, les ont-elles laissées passer? Ont-elles forcé le passage? On ne le saura jamais. Elles entrent dans le palais, parviennent jusqu'à l'enfant et essayent de l'arracher, en quelque sorte, aux Espagnols qui sont en train de l'embarquer dans un carrosse. Alors, à ce moment-là, arrive sur la place un aide-de-camp de Murat, qui est le colonel Lagrange ou le général Lagrange. Et ce général et ce colonel est pris à partie par la foule parce qu'on pense qu'il vient pour enlever l'infant. Alors, on le désarçonne, on lui donne quelques coups de bâton, quelques coups de poing et quelques grenadiers de la garde impériale française qui se trouvent à proximité interviennent pour le dégager et font feu sur la foule. Donc, c'est le premier sang est versé à ce moment-là. Et il va déchaîner, évidemment, une émeute. Alors, une émeute qui va regrouper, d'après les rapports qui ont été fournis ensuite, entre 20 et 30 000 personnes. Donc, ça n'est pas toute la population de Madrid qui se soulève, mais c'est probablement des groupes qui en entraînent d'autres qui ont été mis en scène par les partisans de Ferdinand VII, appelons-le comme ça. Et donc, on se met à chasser le français partout à Madrid. Alors, Murat apprend ça, il donne ordre à ses troupes de remonter les grands boulevards de Madrid avec rendez-vous pour tous à la Puerta del Sol. Et donc, voici les soldats français qui remontent, avec un escadron de mamelouks en tête, suivi par quelques autres cavaliers, puis des cuirassiers, des dragons derrière. Et tout ce joli monde, voyant qu'il y a eu, comment dire, des morts français, hein, et les premiers morts français ont eu lieu, eh bien, se charge la foule, et se livre à une sorte de répression.
Oui, la réaction est assez violente.
La réaction est assez violente. C'est une opération, on dirait, de maintien de l'ordre extrêmement rude, donc qui aboutit à un combat sur la Puerta del Sol, qui a été immortalisé par Goya, le mamelouk emblématique de l'escadron des mamelouks de la garde impériale qui s'appelle Mustapha, qui est un héros de la bataille d'Austerlitz, qui avait récupéré des drapeaux à ce moment-là, est tué d'un coup de feu. Et ça déchaîne la folie à la fois de ses quelques camarades mamelouks, mais surtout des autres soldats français, notamment des dragons. On en voit aussi beaucoup sur le tableau de Goya. Et on se met à sabrer la foule et à poursuivre les gens jusque dans les couvents.
Alors, tout à l'heure, vous faisiez allusion au rôle de Murat et à la responsabilité de Murat lors de cette journée du 2 mai. Et en effet, disons, on peut en dire peut-être un peu plus.
Oui, oui. Alors, le 2 mai, c'est évidemment un événement tellement grave dans l'histoire napoléonienne, puisqu'il va aboutir par la suite au soulèvement de l'Espagne, que Napoléon s'en est beaucoup préoccupé à Sainte-Hélène. Et il a notamment fait publier par Lascazes, dans le mémorial de Sainte-Hélène, une lettre qu'il prétend avoir envoyé à Murat pour le mettre en garde contre, je dirais, la vigueur du peuple espagnol. En réalité, les recherches qui ont été faites, et notamment au début du XXe siècle par un comte Murat, mais c'est pas du tout, il a fait des recherches d'historien et pas du tout pour défendre son ancêtre, montrent que cette lettre est un faux et qu'elle a été, c'est une lettre du 29 mars, soi-disant du 29 mars 1808, elle a été entièrement forgée pour dégager la responsabilité de Napoléon. Et c'est vrai, la responsabilité de Napoléon est entière dans les affaires du 2 mai pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il n'a pas donné d'objectif stratégique à Murat. C'est-à-dire qu'il a laissé Murat totalement dans l'ignorance de son projet pour l'Espagne. Et ce qui fait que Murat a été très embêté parce qu'il y avait encore un gouvernement légal en Espagne, qui était une junte nommée par Ferdinand VII, et que Murat, lui, ayant eu des instructions d'occuper Madrid mais sans s'occuper des affaires intérieures de l'Espagne, avait des relations extrêmement compliquées avec cette junte. Il n'avait pas d'instructions précises, justement, en cas d'émeute, en cas d'agression. Et il y a eu déjà, bien avant le 2 mai, des soldats français qui ont été assassinés à Barcelone, à Madrid et dans les environs. Donc Murat était laissé complètement dans l'ignorance et on a la correspondance de Murat à Napoléon qui lui demande à de multiples reprises de préciser ses instructions, de lui dire pourquoi il est en Espagne et Napoléon lui répond toujours un petit peu dans le style habituel, ne vous mêlez pas de ça, soyez juste mon instrument.
D'ailleurs, ça sera un des problèmes de la guerre d'Espagne. C'est le motif, l'enjeu, on aura peut-être le temps d'y revenir.
Oui, et si vous voulez, dans toute cette affaire d'Espagne, Napoléon a été un peu péremptoire. Il a été, il disait aux gens de terrain, vous n'y comprenez rien, alors qu'il se trouvait à 400, 500 lieues des lieux des batailles. Et évidemment, ses ordres mettaient une semaine à atteindre leur objectif. On ne pouvait pas gérer une situation comme ça. Donc, Murat, d'abord, sur le plan du 2 mai lui-même, Murat a réagi magnifiquement. C'est-à-dire que, comme un guerrier, le grand guerrier qu'il était, il a d'abord réprimé l'émeute. Puis, il a calmé ses soldats, parce que les soldats français, furieux, commençaient à entrer dans les couvents, à jeter les moines par les fenêtres, et que sais-je encore. Murat a calmé tout le monde, il a fait arrêter les émeutiers, et il les a fait comparaître devant des commissions militaires. Alors, évidemment, les commissions militaires, 200 ans après, ça paraît être une procédure tout à fait terrible, mais c'était la procédure de l'époque, en cas d'émeute. Et donc, le lendemain, le 3 mai, et c'est le deuxième grand tableau de Goya, on a fusillé à peu près 400 personnes à Madrid. Donc, alors, les historiens espagnols, souvent, vous parlent de 1000 à 25 000 victimes pour le 2 et le 3 mai. En réalité, il y a un rapport de Belliard, qui était le chef d'état-major de Murat, qui montre qu'il y a eu 400 fusillés à peu près, et à peu près 600 ou 700 morts lors de la répression de la première journée. Donc, ça fait à peu près 1000 morts espagnols, ce qui n'est pas rien quand même, ce qui est énorme, et à peu près entre 400 et 600 Français qui ont été tués à ce moment-là. Donc, ça n'est pas un événement militaire important, mais sur le plan politique, il a une importance considérable.
Et aussi, autre détail, c'est là que les Français, finalement, découvrent la guérilla.
Oui, ils découvrent la guérilla,
une façon de se battre qu'ils connaissaient pas forcément avant.
Oui, ils ont été accueillis à Vienne à bras ouverts, ils ont été accueillis à Berlin au moins par l'indifférence de la population. Ils sont entrés dans beaucoup de capitales européennes où, après tout, les représentants de la première nation organisée, comme on disait, c'est-à-dire la France, avaient affaire à des sujets de souverains qui s'en moquaient un petit peu. Ils ont cru entrer à Madrid dans la même situation. Ils ont été très, très surpris et tout le monde a été très surpris de la façon dont le peuple espagnol s'est rapidement constitué encore, si vous voulez, pour se révolter et pour, au fond, assister celui dont il considérait qu'il était le souverain légitime, c'est-à-dire Ferdinand VII.
Ouais. Alors donc les conséquences politiques de ce 2 mai sont très importantes, mais Napoléon, lui, a-t-il réalisé justement ces conséquences sur le coup ? C'est... Une grande interrogation.
Pas du tout. Napoléon, si vous voulez, dans toute cette affaire d'Espagne, il faut revenir un petit peu à une réalité de Napoléon qui échappe un petit peu parfois, c'est que Napoléon n'est pas un personnage unitaire, si l'on peut dire. C'est un homme qui, comme moi, comme vous, mais chez vous ça se voit beaucoup moins, subit le temps, les habitudes, le fait d'être devenu un souverain extrêmement puissant après la paix de Tilsit, lui a fait perdre, dans une large mesure, le sens de certaines réalités. Et sur l'affaire espagnole, il n'a pas compris. Et il n'a pas compris parce qu'il a été mal informé, on y reviendra sans doute lorsqu'on parlera de l'affaire de Bayonne, mais il a été fort mal informé sur l'Espagne, ses agents lui écrivant « Mais venez, la population vous attend ». Et ses agents ne rencontraient que les partisans des Français à Madrid, et ils ne rencontraient pas en quelque sorte à la fois la population, évidemment, mais surtout un clergé qui était assez obscurantiste et qui était tout à fait partisan de la monarchie légitime, c'est-à-dire celle des Bourbons d'Espagne.
Oui, tout à fait. La principale cause de soulèvement du 2 mai, ça va être le soulèvement général de l'Espagne.
Voilà, l'Espagne va se soulever ville par ville, en quelque sorte. Il n'y a pas un soulèvement, si vous voulez, toute chose égale par ailleurs, parce que je déteste les comparaisons anachroniques, mais on est un peu dans la création de la résistance française au début de l'occupation, c'est-à-dire avec des petits réseaux, des petits groupes qui se constituent un petit peu partout, puis qui vont finir par se réunir et ils vont à ce moment-là constituer de véritables armées, des milliers d'hommes qui vont s'attaquer aux arrières de l'armée française, laquelle armée française n'a pas de stratégie en Espagne, elle n'a pas de chef, elle n'a rien, enfin c'est une armée d'occupation qui n'a pas d'âme et qui donc se laisse au fur et à mesure, comment dire,
déborder.
Et puis surtout, juste après l'affaire du 2 mai, n'oublions jamais, c'est la première, enfin une grande défaite militaire napoléonienne, c'est la défaite de Baylen, où une armée française commandée par le général Dupont est contrainte à la reddition. Et là aussi, la responsabilité de Napoléon est un peu engagée, puisque le général Savary, qui commandait à la place de Murat à ce moment-là, l'avait averti, lui avait dit « Attention, Dupont s'avance trop sur la plaine de Baylen, il faut lui envoyer du renfort. » Et Napoléon, à 1000 km de là, non pas tout à fait, mais à 700 km de là, lui dit « Mais vous n'y connaissez rien, ne vous occupez pas de stratégie, c'est moi qui sais. » Et en réalité, il sait tellement qu'en fait, il laisse Dupont s'engager dans une nasse. Et c'est comme ça qu'on arrive à la catastrophe de Baylen, dont, bien sûr, Dupont est responsable, mais dont le vrai responsable est Napoléon.
Voilà. Écoutez, merci Thierry de nous avoir parlé de cette journée du 2 mai qui marque le début du soulèvement de l'Espagne contre Napoléon. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Canal Académie. Je vous dis au revoir et à très bientôt pour une prochaine émission.